La voix de l'emploi, c'est sur News FM. La voix de l'emploi, ce sont des émissions où l'on parle de l'emploi sous toutes ses formes. Insertion professionnelle, accès à l'emploi, stage et formation, accompagnement vers l'emploi, économie locale. Les acteurs de l'emploi vous donnent rendez-vous tous les mois sur News FM dans La voix de l'emploi. Avec le soutien de Grenoble Alpes Métropole et du CEGET, le Commissariat Général à l'égalité des territoires. Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans La Voix de l'Emploi, votre émission sur l'emploi sous toutes ses formes. La Voix de l'Emploi retrouve une formule presque normale aujourd'hui, en mode déconfiné, puisque nous accueillons deux invités dans notre studio, dans le respect évidemment des règles minimum de protection. Deux invités qui viennent nous parler de l'association EPA, Entreprendre pour apprendre, et nous parler également de mini-entreprises portées par des jeunes collégiens et lycéens. Donc, sans plus attendre, je présente mes deux invités. C'est tout d'abord Jonathan Simonard. Bonjour.
Bonjour Christophe.
Bienvenue parmi nous. Donc Jonathan, vous êtes coordinateur territorial Isère-Drôme-Ardèche pour l'association Entreprendre pour apprendre. Et puis à vos côtés, Aurélien Cador. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue également, Aurélien, vous êtes enseignant histoire-géo au Collège des Collines à Chirins et encadrant pédagogique de deux mini-entreprises EPA sur le collège. Alors pour tous ceux qui sont aussi mauvais que moi en géographie, on va préciser que Chirins, c'est pas très loin, c'est juste après
Voiron. On est voisins, tout à fait.
Voilà, entre Voiron et le lac Paladru.
Exactement, exactement. Nos élèves viennent essentiellement du tour du lac de Paladru. Voilà.
Ça fait combien à peu près de kilomètres de chez nous?
Ici, vous êtes à quoi? 30, même pas 30 kilomètres. 30 kilomètres.
Voilà, alors merci à tous les deux d'avoir bravé encore ce virus qui risque d'être parmi nous pendant très longtemps, avant qu'on arrive à s'en débarrasser. On ne sait même pas si on va s'en débarrasser un jour, donc on va prendre l'habitude tous de porter des masques à certaines occasions et de se tenir très loin les uns des autres. Donc voilà, merci d'avoir accepté de venir dans le studio. On va commencer donc par revenir sur Entreprendre pour apprendre. Et avant même de parler de l'association régionale, hein, puisque Jonathan l'a compris, vous travaillez sur des départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le concept Entreprendre pour apprendre, quand on va sur votre site, on le découvre en allant voir un peu l'histoire, c'est assez vieux, puisque ça c'est né aux États-Unis carrément au début du XXe siècle, enfin quand même autour de 1919 par là.
Exactement.
Il a fallu attendre 70 ans pour que ça arrive jusqu'en France. Donc quelques mots pour expliquer pourquoi des gens, des Américains, ont eu envie de mettre en place quelque chose pour, finalement, le but, si on le résume très simplement, c'est apprendre aux plus jeunes à se préparer au monde professionnel.
Alors déjà, Entreprendre pour apprendre, donc, c'est l'objectif étant de développer le potentiel des jeunes de 9 à 25 ans grâce à des programmes pédagogiques entrepreneuriaux qui sont réalisés en équipe. Donc on va utiliser la pédagogie active. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la pédagogie active? C'est rendre acteur l'apprenant de son apprentissage. Donc en effet, c'est un entrepreneur aux États-Unis en 1919 qui, lors de la révolution industrielle, a décidé de créer le réseau Junior Achievement auquel on appartient, qui est un réseau mondial, donc qui va fêter ses 101 ans en 2020, qui touche actuellement plus de 10 millions de jeunes donc au niveau mondial. Et l'objectif était d'utiliser la gestion de projet et l'entrepreneuriat comme outil permettant aux jeunes de pouvoir développer des savoir-être, des savoir-faire, des compétences, prendre confiance en eux pour leur futur professionnel et leur futur personnel.
Donc c'est un réseau mondial, Entreprendre pour apprendre. Il y a les États-Unis, la France, ça touche combien de pays?
Ça touche un peu plus de 120 pays, donc on est répartis dans 120 pays dans le monde. En France, donc c'est chaque région qui va avoir son association, Entreprendre pour apprendre, et donc on est fédéré par une fédération qui s'appelle Entreprendre pour apprendre France.
Et donc au niveau des associations régionales, il y en a combien? C'est 16, c'est ça?
C'est 16 associations régionales, oui. Et donc ce réseau est composé de personnes qui considèrent que la pédagogie active est essentielle dans l'éducation des jeunes français. Et donc c'est à la fois des encadrants pédagogiques qui vont coordonner et accompagner les jeunes tout au long de leur projet et des mentors d'entreprise qui accompagnent bénévolement, qui souhaitent transmettre des outils, transmettre leur expérience du monde de l'entreprise Et donc, c'est comme ça qu'est composé ce réseau Entreprendre pour apprendre France et Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, nous, en tant que salariés, donc on est 12 salariés sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, on est là pour faciliter, pour former, pour outiller ces parties prenantes qui accompagnent les jeunes au quotidien dans leurs projets.
On va y revenir dans quelques instants. Là, ce qui m'intéressait aussi de vous poser comme question, c'était de voir un peu les distinctions, les différences qui peuvent exister dans l'état d'esprit entrepreneurial d'un pays à l'autre, hein, parce qu'on le sait, alors peut-être qu'en Europe, on est quand même assez proche au niveau de cet esprit-là, mais si on prend les États-Unis par rapport à la France, on sait qu'il y a des grosses différences culturelles dans l'approche de l'entreprise. Mm-hmm. Et puis, il y a aussi des grosses différences d'un pays à l'autre au niveau des règles, des lois. Alors, est-ce qu'il y a un esprit entrepreneurial à la française qui se retrouve donc dans dans ce que vous transmettez aux jeunes ? Aurélien, vous pouvez aussi intervenir.
Ouais. Oh là là, mais là, c'est pas ma partie.
Encore une fois, on utilise l'outil entrepreneurial et la gestion de projet comme outil permettant aux jeunes de pouvoir développer des compétences et des savoir-être. Mais c'est vrai qu'on s'aperçoit notamment chez les jeunes, donc c'est à peu près un peu plus de 5000 jeunes hein, qui sont accompagnés en Auvergne-Rhône-Alpes, on s'aperçoit que un peu plus de 40% des projets ont une valeur de développement durable, écologique. Donc c'est vrai que c'est, en tout cas pour nous, c'est extrêmement enrichissant et très intéressant de voir qu'il y a une sensibilité de ces jeunes au développement durable.
Le fait même de proposer des actions aux enfants et adolescents, ça commence assez tôt, hein, puisque vos actions, c'est dès le primaire, les CM1, CM1, CM2, ouais. Et puis donc collège et lycée. Il y a aussi une partie un peu accès étudiant. Université.
Alors, on est agréé ministère de l'Éducation, donc on va travailler avec les primaires, les collèges, les lycées, mais on va aussi travailler avec des structures éducatives post-bac, mais aussi des structures associatives d'éducation, type l'école de la deuxième chance, les missions locales. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où on a une structure éducative sur le territoire et un groupe de jeunes, on peut monter un parcours d'entreprendre pour apprendre.
Et alors, ce que je voulais demander, c'est donc le fait de proposer ces actions à des jeunes esprits en formation, plus ou moins développés, hein, en suivant que ce sont les plus jeunes ou les ados les plus mûrs. Est-ce que ça implique une approche particulière du monde professionnel que vous leur présentez ? Et là, je pense plutôt à vos partenaires professionnels. Est-ce que vous les briefez, ces partenaires, pour leur dire, bon voilà, c'est un public de jeunes ? Donc, voilà comment il faut, en gros, aborder l'encadrement, l'accompagnement d'une mini-entreprise. Ou est-ce que vraiment vous laissez libre ?
Il y a un accompagnement, bien sûr, à la fois des encadrants pédagogiques qui n'ont pas forcément apprise la méthodologie de gestion de projet et de ces chefs d'entreprise, collaborateurs d'entreprise qui réintègrent finalement le collège, le lycée. C'est des structures qui pour eux, finalement, ils ne sont pas rentrés finalement dans un collège ou dans un lycée depuis quelques années. Et donc il y a un accompagnement qui est fait de notre part, de la part des salariés finalement d'Entreprendre pour apprendre. Donc 3 formations sont faites durant l'année du parcours de la mini-entreprise L. Il y a une plateforme pédagogique qui permet justement de pouvoir connaître à la fois les valeurs, la pédagogie, la philosophie d'Entreprendre pour apprendre. Il y a vraiment un travail collectif de l'ensemble de ces réseaux pour faire en sorte que ces jeunes soient le mieux accompagnés.
Là, je peux peut-être intervenir. Il a parlé des encadrants. Il faut savoir qu'on a été formés, nous aussi, les enseignants, en même temps que les mentors, c'est-à-dire les chefs d'entreprise. On a des formations communes. Et c'est vrai qu'on se rend compte que les besoins sont communs. On n'est pas mieux formés finalement à la pédagogie de projet. Pour nous aussi, enseignants, c'est assez nouveau. Et pour les jeunes, évidemment. Il a parlé de mini-entreprise L. Tu pourrais peut-être préciser parce que c'est pas...
Ouais. Donc pour répondre à nos objectifs hein, d'accompagnement de ces jeunes et de cette formation, donc on a développé 3 parcours distincts. Le parcours de la mini-S, de la mini-M et de la mini-L. Donc c'est 3 parcours qui sont vraiment différents, distincts. Un parcours de mini-S qui dure une journée. Donc là, on est de la phase d'idéation jusqu'à la conceptualisation d'un projet. On va rassembler entre 30 et 150 jeunes chez une entreprise partenaire ou une collectivité partenaire. Et ces jeunes sont mélangés et avec l'objectif, en début de journée, de connaître le sujet de la journée et à la fin, de se travailler en équipe avec différentes étapes qui sont proposées, de pouvoir le présenter à l'oral L'objectif étant vraiment pour l'ensemble des parcours de mini-entreprise, à la fois de développer la confiance en soi, de développer le travail en équipe et de développer l'aisance à l'oral. Donc ça, c'est le premier parcours. Le deuxième parcours, c'est la mini-entreprise M. Donc c'est un parcours de 30 heures. Et le parcours dont on parle depuis tout à l'heure, qui est le programme de la mini-entreprise L, qui est la création d'un projet d'une entreprise à taille réelle pendant un an, où les jeunes sont acteurs centraux de ce projet, donc doivent se responsabiliser, doivent trouver une idée, doivent travailler en équipe, prendre des décisions à plusieurs, jusqu'à la finalisation du projet qui se fait en fin d'année. Et bien sûr, tout ça accompagné par des encadrants pédagogiques comme Aurélien et des mentors d'entreprise qui viennent bénévolement apporter leur soutien et leur expérience à ces jeunes mini-entrepreneurs d'une année.
Un dernier détail avant de parler un peu plus des mini-entreprises du Collège des Collines à Chirens. Je l'ai dit en vous présentant, donc vous êtes coordinateur pour Isère Drôme-Ardèche. Ça veut dire qu'il y a d'autres coordinateurs qui touchent les autres départements de la région.
On est donc 12 travaillant à l'association. Et c'est vrai que chaque territoire va être accompagné par un salarié de l'association, justement pour faire en sorte d'avoir un ancrage territorial important, de pouvoir échanger à la fois avec les encadrants pédagogiques, les jeunes et les mentors, mais travailler aussi sur des partenariats pour faire en sorte que de plus en plus de personnes souhaitent participer à ce réseau d'Entreprendre pour Apprendre.
Donc ça veut dire que vous touchez tous les départements de France.
On touche tous les départements de France, ou en tout cas en Auvergne-Rhône-Alpes, on est représenté sur l'ensemble des départements.
Alors Aurélien, vous encadrez donc cette année deux mini-entreprises dans votre collège. Vous êtes un habitué des mini-entreprises EPA, c'est pas la première fois ou c'est une grande première ?
Non, c'est pas la première fois. Ça fait depuis l'ouverture du collège il y a 6 ans, on a toujours une mini-entreprise. Les premières années, c'était dans le cadre de ce qu'on appelait à l'époque les DP3, découverte professionnelle 3 heures. C'était une option qui était offerte au 3e. Et c'est vrai qu'on est tombé dans le bain un peu par hasard. Au départ, on a été formé sans trop savoir pourquoi. On allait un petit peu à tâtons, vraiment, comme tout le monde hein, à ce moment-là en DP3. Chaque collège avait inventé un peu sa formule, inventé un petit peu son approche. Et nous, en fait, on a eu la chance, vraiment la chance, de tomber sur EPA. Je ne saurais plus vous dire exactement comment. Ça doit être...
Jonathan, vous le savez peut-être, non ? Comment ça s'est passé avec le collège des Collines ?
Ouais.
Malheureusement, j'ai pas encore l'expérience qu'Aurélien a en Entreprendre pour Apprendre, parce que lui, ça fait 6-7 ans, et moi, ça fait 3 ans que je suis dans la structure.
Alors, on ne saura pas trop, alors.
Mais ceci, c'est vrai, je me souviens, donc c'était l'équivalent de Jonathan à l'époque. C'était Anne Moltisanti qui nous avait contactés, voilà, ça me revient, et qui nous avait mis le pied à l'étrier. Hein. Vraiment, on était deux enseignants qui allions encadrer les DP3, donc un professeur d'histoire-géographie, moi j'étais là pour la partie plutôt sciences économiques et sociales. Je m'attendais à faire une sorte de SES, ce qu'on trouve au lycée en version light pour des troisièmes. Et finalement, je ne l'ai pas fait du tout, du coup. Un collègue de technologie pour la partie pratique. Et lui aussi, il pensait vraiment au niveau... On allait partir sur une option un peu théorique, type latin, vous voyez, pour des élèves qui étaient intéressés par une ouverture culturelle, quelque autre chose. Et puis, en bricolant, on est tombé comme ça sur EPA, et c'est EPA qui nous a formés. Donc, très rapidement, on a arrêté de bricoler dans notre coin, et on s'est mis au diapason, on a vraiment travaillé avec EPA depuis le départ. On peut pas dire qu'on a participé vraiment à l'élaboration des projets, mais on a toujours suivi à la lettre ce qui nous était proposé, et ça fonctionne pas mal puisque c'est maintenant notre 6e année. On a eu 3 années de suite, on a eu 2 mini-entreprises au collège, donc on peut dire que ça fait partie maintenant de l'ADN de l'établissement. On est vraiment dans un établissement où il n'y a même pas de questions à se poser, par exemple, sur la poursuite du projet l'année prochaine, vous voyez. Même si l'enseignant, par exemple, a été amené à muter, l'entreprise, la mini-entreprise, les mini-entreprises, maintenant, font partie de l'ADN du Collège des Collines.
Voilà. Alors, juste un mot sur le choix des établissements, des structures auxquelles vous allez proposer ces actions de mini-entreprises. On l'a compris, ce n'est pas que les établissements scolaires, hein, mais c'est en général toute forme de structure qui est liée à l'éducation, de jeunes. Alors, comment vous faites les choix? Vous démarchez vraiment toutes les structures possibles où il y a quand même une sélection? Et puis, est-ce qu'il y a des structures qui sont réfractaires, qui ne veulent pas?
C'est une bonne question. Ah oui. On va travailler, donc on est agréé ministère de l'Éducation, on va travailler avec l'ensemble des rectorats Auvergne-Rhône-Alpes. On a une convention cadre avec la région, on travaille avec les différents départements. Et donc, toute structure éducative avec un groupe de jeunes de 8 à 20 élèves peut participer à ces parcours d'entreprendre pour apprendre. Est-ce qu'il y a des structures réfractaires? C'est une très bonne question, j'espère que non. Comme tu le disais tout à l'heure, la question de l'entreprise se pose, mais on insiste vraiment sur le fait que, encore une fois, c'est un outil utilisé pour faire en sorte que ces jeunes développent notamment des savoir-être. Le fait de pouvoir échanger, débattre avec les gens, de pouvoir prendre des décisions, de pouvoir travailler avec d'autres personnes, c'est pas quelque chose qui est forcément lié à son avenir professionnel, mais ça va être aussi lié à son avis personnel, parce que je pense que tout un chacun, dans notre vie, on a besoin de pouvoir échanger avec n'importe qui et de pouvoir comprendre aussi les autres.
C'est une évolution qu'on suit aussi au collège, hein. On voit la place de l'oral qui prend de plus en plus d'importance, même dans les examens, hein, au collège comme au lycée. On voit aussi l'évaluation de compétences qui rentre en compte maintenant dans l'éducation nationale. C'est de plus en plus pris en compte, mais là aussi, on va trouver des blocages, hein, comme ailleurs. Ceci dit, pour mettre un petit bémol, c'est vrai qu'en tant qu'enseignant, ça m'est arrivé, je me suis fait reprocher d'introduire au départ, hein, c'était vraiment au tout début quand on lançait les projets, maintenant la question ne se pose plus, mais de faire entrer l'entreprise dans l'école. Ça a pu poser parfois des problèmes presque dogmatiques à certains collègues. J'ai déjà eu des remarques, mais c'était il y a longtemps. Est-ce que vraiment on veut que nos jeunes apprennent à devenir des entrepreneurs? Est-ce que vraiment, est-ce qu'on doit être une succursale capitaliste, etc. Mais ce type de discours s'est effacé devant les résultats, devant le plaisir qu'ont eu les élèves à y participer. Maintenant, l'engouement que ça génère dans l'établissement, et il y a bien longtemps que je n'ai pas entendu ce genre de remarques. Mais ça a pu tiquer un petit peu au départ. Après, il fallait faire, c'est comme toujours, hein, il a fallu faire nos preuves. Il a fallu montrer de quoi on était capable. Et puis, après, la question, dès la deuxième année, la question ne se posait plus.
Peut-être donner des exemples, justement, concrets de projets. Ça pourra peut-être imaginer un peu nos propos, et peut-être que tu pourras rebondir aussi sur les projets que tu as pu mener au collège. Il y a par exemple des paniers à map qui sont créés, des maisons à insectes, une clé USB sécurisée qui avait été créée notamment par des jeunes du Collège des Collines, des jeux de société qui nous permettent de découvrir les premiers secours, des t-shirts personnalisés. Alors ça, c'est un collège justement, c'est le Collège des Chartreuses, qui est un Saint-Martin-le-Vinou, qui avait créé des t-shirts personnalisés pour faire en sorte que les adultes comprennent les expressions des jeunes. Voilà le type de projets qui sont créés. Et c'est donc ces jeunes-là qui vont en groupe trouver une idée, donc travailler sur des outils de créativité, trouver une idée et mettre tout en place pour faire en sorte qu'à la fin de l'année, ils aient concrétisé cette idée en s'organisant, en travaillant à plusieurs, en travaillant aussi avec des partenaires extérieurs. L'idée étant de faire en sorte que ces jeunes puissent financer eux-mêmes leurs projets. Ils vont travailler potentiellement avec des fournisseurs, ils vont travailler avec des clients, mais finalement, tout ça est un prétexte pour faire en sorte que ces jeunes puissent prendre confiance en eux, puissent se développer personnellement.
Et on va y revenir dans quelques minutes sur cet aspect-là. Aurélien, quelles sont les deux mini-entreprises de cette année? Qu'est-ce qu'elles font?
Alors, cette année, nous avons deux mini qui ont des profils très, très différents. C'est assez représentatif, je pense, de ce qu'on peut trouver parmi les mini du département, enfin de la région. On va avoir une mini qui concerne des élèves qui sont extrêmement performants, qui sont totalement autonomes et qui sont déjà lycéens dans l'âme. Ceux-là, c'est des élèves qui n'ont pas vraiment besoin de nous. Au départ, on sert... Alors là, pour le coup, je me rejoins dans le vocabulaire que vous utilisez pour dire facilitateur. Nous aussi, les enseignants, pour cette équipe-là, on est des facilitateurs. C'est-à-dire qu'au départ, on impulse le truc, on met les élèves en confiance, on leur prépare un peu le camion, on leur donne les clés. Et après, ils roulent très bien sans nous. On accompagne. Ce sont des élèves qui sont vraiment très autonomes. Ils sont capables, par exemple, d'organiser tout seuls une petite conférence par Internet si les professeurs ne sont pas disponibles. Ils sont capables de gérer le projet de bout en bout à condition qu'on leur donne le cadre. Et ce cadre-là, il faut être très modeste, hein, ce n'est pas nous les enseignants, c'est EPA qui nous fournit le camion. Nous, vraiment, on est là pour transmettre les clés. Moi, c'est vraiment l'idée, le camion CEPA, nous, on passe les clés et les élèves conduisent. Et c'est là, on en reparlera certainement après, c'est là où pour nous, les enseignants, c'est compliqué. On n'a pas l'habitude de laisser des enfants conduire. C'est-à-dire que pour un enseignant, remettre des clés à un enfant en se disant « Mon grand, maintenant, tu vas conduire tout seul, je te montre le point A, je te montre le point B, débrouille-toi », bah, c'est pas naturel. Hein, nous, on est formés tout au contraire à bien encadrer, baliser, sécuriser, tenir le volant. C'est notre boulot au quotidien. Et on part d'ailleurs du lâcher-prise. Hein. Ce lâcher-prise, il pose encore problème pas mal pour les enseignants. C'est pas naturel pour nous. Donc ça, c'est cette première équipe. Alors eux, le projet, concrètement, ça va être de réaliser des lampes constituées de paille. Vous savez que depuis le 1er janvier, les pailles en plastique sont interdites dans tous les restaurants, magasins en France. Donc l'idée de ces jeunes, c'est d'utiliser cette matière première gratuite, puisque les établissements type restauration n'avaient plus le droit de les utiliser et n'ont plus pas le droit de les jeter. Ils se sont proposés donc de récupérer ces pailles et d'en faire des lampes. Ce sont des lampes qui, au départ, étaient design. Ça ressemble un peu à des lampes. Ça ressemblait, les premiers modèles, à des lampes métalliques qu'on peut trouver dans les magazines design, avec des armatures noires chromées, là, qui, avec une lampe souvent un petit peu déco orangée. Ces premiers modèles, finalement, ont été abandonnés. Et progressivement, c'est ça, justement. Là, on va en parler, mais c'est là où les outils EPA sont précieux. Tous ces outils d'idéation, là, on va bricoler, faire des prototypes, essayer, etc. Échouer, recommencer. Ils sont passés par toutes ces étapes pour arriver à un modèle vendable, produit en petite série, mais qui est vraiment produit par les élèves en série. Et donc, c'est toute cette démarche-là qu'ils ont été capables d'accomplir quasiment tout seuls. Franchement, on n'a pas été très utiles, ni moi, ni mon collègue Samuel Dignard, que je salue, en technologie. L'autre équipe, ce sont des jeunes qui, au contraire, sont en décrochage scolaire, ou du moins qui auraient pu décrocher si on ne leur avait pas proposé un moyen de se raccrocher à l'établissement. Ces élèves qui étaient souvent démotivés, qui avaient des résultats scolaires faibles. Et donc là, la mini-entreprise rentre dans le cadre de ce que nous, au collège, on a appelé les parcours personnalisés. Ce sont des élèves en difficulté et qu'on va accompagner. On va alléger leur emploi du temps sur des matières qui leur sont parfois pénibles. Et on va leur faire faire du théâtre, on va leur faire faire des stages de confiance en soi par des intervenants extérieurs, on va leur faire faire des sorties, des visites d'entreprise, on va leur faire faire des stages, plus de stages que les autres élèves de 3e. Un élève de 3e, tous les parents qui nous entendent là savent qu'ils ont un stage d'une semaine à organiser pour leurs enfants. Eh bien, si leur enfant est en parcours personnalisé, ils en auront 3 à trouver. Mais une fois de plus, ce sont des familles qui ne vont pas se débrouiller tout seuls. On va les aider, les accompagner beaucoup plus qu'un élève lambda en 3e. Donc pour ces élèves-là, il nous semblait intéressant d'avoir un projet. Donc là, la mini-entreprise n'est pas du tout une mini-entreprise marchande, c'est une mini-entreprise qui a pour but d'envoyer l'électricité dans un village de Madagascar. Donc concrètement, avec une association qui s'appelle Énergie sans frontières, les élèves ont créé 6 kits photovoltaïques. Donc les panneaux, par exemple, ont été donnés par ST Microélectronique. Vous allez avoir des Schneider Electric aussi qui a participé à quelques dons de matériel. Donc tout ça, c'est de l'autofinancement aussi avec de la vente de crêpes, de la vente de pain au chocolat, ce genre de choses. Et ces jeunes se sont mobilisés pour... Bah, ce sont des jeunes en difficulté qui vont aider d'autres jeunes en difficulté. Concrètement, c'est un village à Madagascar avec un orphelinat. Vraiment, on a pu voir, grâce à l'association ESF, on a pu voir le village, on a pu voir les gens qui allaient recevoir ces kits. Et les jeunes se sont mobilisés donc, pour financer, fabriquer et ensuite expédier ces kits à Madagascar. Donc on est vraiment sur quelque chose de totalement solidaire. Donc un projet durable, développement durable avec le recyclage des pailles, et un projet solidaire avec ces kits photovoltaïques. Voilà les deux projets pour cette année, mais chaque année, de toute façon, les élèves nous étonnent, hein, et on sait que les jeux sont rebattus complètement l'année prochaine.
On va faire une petite pause musicale, et puis on se retrouve pour continuer la discussion avec nos deux invités autour de l'association EPA, entreprendre pour apprendre, et puis des mini-entreprises qui se créent dans des établissements scolaires. Et là, en l'occurrence, on a l'exemple du Collège des Collines de Chirins. Petite pause, et puis on se retrouve. Donc, restez avec nous. À tout de suite.
No hay nadie más preparado que el jovencito de Inglewood.
Super good. Inglewood.
I told him I'm the one for the job, no commas. And I'm serious, period, no commas. Wanna enjoy my family and my friends with no drama. And stack till I'm delirious, period. No, ain't a dollar sign tag on some peace of mind, Jack. We could take a loss, we gon' get it right back. We could take a loss, we gon' get it right. We could take a loss, we gon' get it right. Yeah. I could be your boss, put game in your life. Or you could spin your wheels, that chain off your bike. These niggas on their heels, they faint in a fight. I'm here to feed my fam, they want their name in the lights. Dipped the paint in my pain and illustrated my plight. Gave it till I had nothing left, so I guess that I'm right. Right until I don't see no wrong, head to Rome on a flight. Then it's bon appetit, there not be no bone in my swipe. Whip from bologna sandwiches, listening to Thelonious. Get it like homie had a B-day on replay. And grandma kissed him and said, man of God, you was made to withstand the odds. Learn to play your cards, stay true to you and take charge. I told him I'm the one for the job, no commas. And I'm serious, period, no commas. Wanna enjoy my family and my friends with no drama. And stack till I'm delirious, period. No,
ain't no dollar sign tag on some peace of mind, Jack. We could take a loss, we gon' get it right back. We could take a loss, we gon' get it right. We could take a loss, we gon' get it right.
They buying everything in my city lights. Property value rising, they gon' gentrify. This ain't rocket science, here let me simplify. We think we owners, but we only renters, why? The system ain't broke, it's designed to keep us declining. Until we reach the bottom line and can't see the sky swimming. And our misfortune distorting our vision and eyes glistening.
Smoke, chill out.
Remember our fallen peers, they listening.
Hey, my nigga, chill out, smoke.
Sorry, my dear, they eat that venison.
Hey, nigga, shut the fuck up.
With no remorse, resort to militants.
Nigga, shut
They'll
up,
They'll shoot
nigga.
Up the church, mosque, that temple
you
shit.
Trying to get us
and
killed.
We shoot up ourselves while everybody aiming at a nigga like me. Brown skin, kinky hair, walking in my Nike. Township, Inglewood about to belong to Whitey. Unless we buy this shit up and fry this shit up like Snapper, invest in our own society.
I told him I'm the one for the job, no commas. And I'm serious, period, no commas. Wanna enjoy my family and my friends with no drama. And stack till I'm delirious, period.
No commas, no drama. Word to Tio Obama. Mama dijo, no te preocupes, mijo. You got it. You about to blow the hat on yo en la tierra, Osama. Just keep on giving them cuts con las tijeras, yo comma.
No commas, no drama. Word to Tio Obama. Mama dijo, no te preocupes, mijo. You got it. You about to blow the hat on yo en la tierra, Osama. Just keep on giving them cuts con las tijeras, yo comma. No commas, no drama. Word to Tio Obama. Mama dijo, no te preocupes, mijo. You got it. You about to blow the hat on yo en la tierra.
La voix de l'emploi, c'est sur News FM. Et effectivement, c'est bien sûr News FM en direct sur le 101.2 que nous discutons du sujet de ce jour dans le cadre de cette émission de La Voix de l'Emploi. Nous parlons d'Entreprendre pour Apprendre, une association régionale mais qui est rattachée à une fédération nationale en France. Et puis nous parlons aussi des projets de mini-entreprises qui sont donc favorisés dans le cadre de ce partenariat entre EPA, des établissements scolaires, enfin l'éducation nationale de manière générale, et puis des intervenants du milieu professionnel. Et justement, j'enchaîne sur ce point-là. Jonathan, les professionnels qui interviennent, alors on peut peut-être dire juste un mot sur d'où ils viennent exactement, et c'est là aussi, c'est vous qui démarchez le monde de l'entreprise pour trouver des parrains, ou est-ce que vous avez un peu des contacts privilégiés avec certaines structures, et à partir de quel moment ils doivent intervenir auprès des mini-entreprises? Est-ce que c'est dès le début de l'année, dès le début du projet, ou est-ce qu'on laisse un petit peu les choses s'organiser au sein des établissements? Et puis finalement, quel est leur rôle en tant que parrain? Est-ce que c'est accompagner? Est-ce que c'est coordonner? Est-ce que c'est gérer certaines choses? Voilà, beaucoup de questions pour toi, pour vous. Au revoir, on se tutoie maintenant.
On peut se tutoyer. Ces mentors, d'où ils viennent? C'est des personnes, je le disais tout à l'heure, le réseau d'Entreprendre pour Apprendre, c'est avant tout des personnes qui croient en la pédagogie active dans l'éducation actuelle. Donc c'est avant tout des personnes qui souhaitent transmettre leur expérience, leur expertise, et surtout travailler avec des jeunes. Donc, c'est des personnes qui viennent d'un peu partout. On va avoir des grosses entreprises avec qui on est partenaire. Ça peut être des réseaux d'entrepreneurs, mais ça peut être aussi des personnes qui, enfin, juste des personnes, en fait, qui souhaitent s'investir dans ce réseau avec les jeunes. Donc, ça, voilà, c'est un mélange de plein d'univers différents. Et c'est ce qui fait aussi la richesse d'Entreprendre pour apprendre. Le deuxième objectif de PA, c'est de créer du lien entre l'école et le monde de l'entreprise.
C'est aussi peut-être de choisir le bon parrain pour la bonne mini-entreprise, parce que c'est pas n'importe quel professionnel qui peut aller s'occuper de n'importe quelle mini-entreprise.
On parlait tout à l'heure justement d'accompagnement, c'est notre rôle finalement en tant que salarié, de pouvoir échanger avec ces personnes avant les projets, de pouvoir les mettre en relation avec les encadrants pédagogiques qui vont coordonner les projets, pour que justement ce binôme puisse travailler conjointement tout au long de l'année sur l'accompagnement et la coordination et le pilotage de ces projets. Mais l'objectif, encore une fois, et Aurélien en parlait tout à l'heure, les encadrants pédagogiques et les mentors sont invités à participer à l'ensemble des formations que nous mettons en place chaque année pour être formés et pour connaître les valeurs, la philosophie, la pédagogie active et redécouvrir aussi le monde scolaire.
Oui, juste un mot là-dessus, justement, c'est vrai que ces accompagnants, ils ont quitté l'école depuis longtemps. Ils ont gardé une image un peu d'épinal, souvent, ils se projettent énormément dans ce qu'ils ont vécu et finalement, ils se rendent compte que l'école a beaucoup changé. On est quand même nettement plus ouvert qu'avant. Le monde dans l'entreprise est le bienvenu dans l'établissement scolaire où je travaille, par exemple. Il n'y a vraiment eu aucun problème, ni de la part de mes chefs d'établissement qui nous ont toujours, par exemple, soutenus, accompagnés. Donc on sent quand même qu'il y a une évolution là-dessus. Et ils sont souvent très étonnés, ces mentors, ces parrains, d'avoir cet accueil. De pas se sentir alien ou étranger ou je sais pas, ils sont peut-être plus inquiets que nous le sommes et notre travail à nous les enseignants c'est aussi de les rassurer là-dessus. Voilà. Quant à ce qui est un profil, on va en parler après je pense hein, mais de notre point de vue on va faire avec, c'est-à-dire que faut surtout pas que ce soit un prof et donc est-ce qu'il doit vraiment rentrer dans nos clous à nous? Pas forcément. On a un parrain cette année qui est vraiment grande gueule, et il le prendra bien d'entendre ça d'ailleurs, et ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien parce qu'il n'est pas éducation nationale, il n'est pas du tout, il n'aura pas un langage de prof, il n'aura pas un discours de prof, et les enfants, ça les touche. Ça leur fait du bien aussi d'entendre autre chose.
C'est finalement quand même une des premières choses qui sont demandées aux parrains du monde professionnel, c'est d'apporter une vision de pro, hein, directement de terrain, une vision vraie de l'entreprise, et arriver à composer entre le côté apprentissage des jeunes, le côté il faut au final il y a peut-être une commercialisation qui sera prévue, il faut arriver à ménager tout ça.
C'est à la fois l'envie de pouvoir partager son expérience, c'est aussi la connaissance de la gestion de projet. Et puis après, le souhait aussi d'entreprendre pour apprendre, et pourquoi on crée ce binôme d'encadrant et de mentor, c'est faire en sorte que ce mentor d'entreprise puisse transmettre de nouveaux outils, puisse transmettre des savoir-être qui sont aussi en entreprise, et faire en sorte que à la fois la vision de l'encadrant et la vision du mentor soient complètement complémentaires pour que le projet des mini-entreprises soit le plus abouti possible.
Alors il y a donc un enrichissement de tous les acteurs de ces projets, on l'a compris, puisque les professeurs, les référents pédagogiques, vous apprenez des choses, les élèves apprennent des choses, les parrains, eux aussi, apprennent des choses au contact de ce petit monde. Si on s'en tient uniquement sur les jeunes eux-mêmes, ils entreprennent, mais alors finalement, pour apprendre quoi?
Alors là, c'est effectivement, on n'est plus sur les savoir-être hein, que sur les savoir-faire, clairement. Ce que je peux vous dire tout de suite, c'est que le retour qu'on a des parents, c'est que leur enfant est transformé par l'expérience. Ça, tous les parents nous l'ont toujours dit depuis 6 ans, à la fin de l'année, les élèves qu'on accueille en mini-entreprise, que ce soit pour les parcours personnalisés ou pour nos élèves super performants, là, peu importe, on a vraiment une mutation, une transformation. Ce sont des élèves qui gagnent très vite en confiance, en maturité. Et ça, ce n'est pas moi, hein, c'est les parents qui le disent. Mmh. Donc il y a un effet mini-entreprise, il y a un effet sur la personne même, de l'élève. Au niveau contenu disciplinaire, il y a des passerelles qui sont possibles, hein, bien évidemment. Je pense par exemple à une année où c'est le professeur de mathématiques qui m'avait remplacé Je peux vous dire que la comptabilité a jamais été aussi bien tenue que cette année-là. Donc on a effectivement, chaque discipline peut apporter sa spécialité, sa spécificité et son éclairage aussi sur la façon de voir l'entreprise. Moi, pour ma part, j'essaye de pas être prof. Donc le but du jeu pour moi, c'est de surtout pas être Monsieur Cador, l'enseignant d'histoire-géographie. D'ailleurs, lorsque je rentre dans la mini-entreprise, Manon, qui est la PDG, hein, qui a donc 14 ans, je l'appelle patronne. Et je l'appelle patronne tout le temps. Ça ne prête même plus à sourire. Et si j'arrive en retard, je me fais copieusement engueuler parce que je suis en retard à la mini-entreprise. Donc, il faut aussi, au niveau des apprentissages, essayer de ne pas faire le deuil, mais être capable de sortir de son rôle d'enseignant d'une matière ou d'une discipline pour devenir juste le pédagogue le plus distant, le plus discret possible. Il faut aussi être capable de, je pense, hein, moi, mais c'est comme ça que moi je le fais, hein, d'être capable d'inverser de temps en temps les rôles et de se mettre à la disposition des élèves pour dire, ben voilà, est-ce que je peux être utile à quelque chose là? Est-ce qu'il y a une équipe qui a besoin d'un coup de main? Je ne vais pas vers les élèves, c'est eux qui viennent me chercher. Ce genre de choses, alors on le fait de plus en plus maintenant en classe avec des dispositifs comme devoir fait, ce genre de choses, pour moi, c'était vraiment nouveau. Il a fallu que j'apprenne à laisser de côté mon uniforme de prof. Et quand je parle d'uniforme, effectivement, Jonathan peut témoigner que j'ai vraiment un uniforme au collège, et être capable de devenir juste un membre de la mini-entreprise comme un autre. Voilà. Donc c'est pour ça, d'un point de vue pédagogique, n'attendez pas de moi que je fasse de l'histoire-géographie en mini-entreprise. Hein. Finalement, c'est vraiment... on est sur des savoir-être quasiment à 100%, hein, je dirais. Et ça marche.
Je pense qu'il y a deux niveaux. Il y a une notion que j'aime beaucoup. Alors, on parle beaucoup d'entreprendre pour apprendre, mais ce que j'aime beaucoup, c'est apprendre à apprendre. Et ça, c'est une notion qui est, à mon sens, très importante, notamment pour la jeune génération. C'est que l'entrepreneuriat est un outil à 360 degrés qui est super intéressant, justement, pour développer à la fois des compétences et des savoir-être. Mais apprendre à apprendre, c'est super intéressant parce que à partir du moment où on se responsabilise, où on va avoir un besoin particulier, on va aller chercher la solution. Et c'est comme ça que finalement, dans la mini-entreprise, tout ça se met en place et s'organise. C'est dans un premier temps, les jeunes ne savent absolument pas ce qu'ils vont faire. Donc le mentor, les encadrants pédagogiques vont expliquer finalement ce qui va se passer durant l'année, vont expliquer les attendus. Et donc après, c'est les jeunes, après cette phase de découverte, c'est les jeunes qui vont devoir expérimenter à la fois individuellement, mais expérimenter à plusieurs. Et cette notion d'apprendre à apprendre, je la trouve assez intéressante jusqu'à réussir l'objectif final, qui est la commercialisation d'un produit. Donc il y a cette notion-là. La deuxième notion, moi, qui me vient à l'esprit, c'est la confiance en soi. À partir du moment où on est acteur d'un projet, quel qu'il soit, on apprend à faire, et donc du coup, on se responsabilise. On teste des choses, on échoue, on réussit, et c'est finalement un peu la joie de l'entrepreneuriat. C'est pas une ligne directrice, c'est finalement selon ce qu'on y met, on va faire on va passer par différentes étapes de réussite et d'échec, mais pour au final être fier de ce qu'on a réalisé. Donc ça, c'est vraiment les deux notions, et notamment, enfin, on peut parler de savoir-être, mais il y a plein de savoir-être, j'en ai parlé tout à l'heure. Au niveau des savoir-faire et des connaissances apprises, je pense que n'importe qui dans sa vie a géré un projet. Pour acheter une maison, dans son travail, que ça soit faire un planning, gérer un budget, parler avec des gens pour les motiver. Donc tous ces éléments-là, finalement, c'est ce que apporte l'entrepreneuriat comme outil pédagogique. C'est finalement cette pluralité d'axes de travail et de réflexion qui permettent de développer cet ensemble.
Oui.
Non, j'allais juste rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. La grande différence avec la démarche de projet qu'on met en place régulièrement, hein, dans nos établissements, en histoire-géographie, je fais des projets avec toutes mes classes dans plein de trucs différents. Là, la grande différence, c'est que ça vient vraiment des élèves. Ce n'est pas mon projet, c'est pas moi qui ai monté le truc, je ne sais pas du tout où on va et je ne veux pas le savoir. C'est les élèves qui font tout. On n'a quasiment pas la main sur ce projet-là, ce n'est pas le nôtre, c'est le leur. Donc là, lorsque moi, je vais préparer, je ne sais pas, moi, là, je suis en train de préparer, par exemple, pour l'année prochaine, un projet sur un livre dont on est le héros sur les migrants. Là, on est obligé de travailler en amont, avec des auteurs, on prépare le truc. Et les adultes, savent exactement où on va, et les adultes ont tout prévu, on a budgétisé, on a tout préparé pour l'année. Là, c'est tout le contraire. C'est ça qui est difficile pour un enseignant. On part dans le flou total. On va faire confiance aux élèves, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment, on va préparer le terrain, on va les rassurer, on va les guider au départ, et progressivement, on ne dit plus rien. On essaye de devenir quasiment invisible et de les laisser se planter. Ça aussi, c'est difficile pour un enseignant de laisser un élève.
Oui, parce qu'il y a quand même des mini-entreprises qui n'arrivent pas à atteindre l'objectif fixé en début d'année.
Il y en a peu. On parlait tout à l'heure de différents exemples qu'il peut y avoir dans un projet. Ce réseau a la chance d'avoir énormément de personnes et de profils complètement différents, que ça soit des jeunes, que ça soit des encadrants pédagogiques et que ça soit des mentors. Et tout dépend finalement le cadre du projet. On parlait tout à l'heure, est-ce qu'il y a finalement dans l'éducation nationale ou dans d'autres structures, il y a des freins pour mettre en place des mini-entreprises? Je pense que c'est plutôt le contexte. On va travailler avec les personnes qui souhaitent monter des mini-entreprises. On va travailler avec elles sur le contexte. Il y a des jeunes avec qui on va faire des projets, des petits, on peut appeler ça, je ne sais pas, des projets à moins grande envergure que d'autres jeunes qui sont en post-bac. C'est sûr qu'on ne va pas avoir le même projet en troisième qu'en post-bac. Et donc, c'est là tout l'intérêt, c'est que finalement, la mini-entreprise et Entreprendre pour apprendre, c'est un fil rouge. C'est un fil rouge, c'est des outils qui sont transmis, c'est des formations qui sont transmises, et à partir d'objectifs pédagogiques qui sont travaillés par les encadrants pédagogiques en début de projet, c'est finalement comme ça que se construit le projet, et c'est les jeunes qui expérimentent et qui finalisent le travail qui a été coordonné un petit peu en amont par l'équipe de PA, par les encadrants pédagogiques et par les mentors.
Juste un mot, si vous voulez, sur la formation. On a été formés, hein. C'est-à-dire que moi, à la base, dans l'éducation nationale, bien sûr, on suit des formations, mais c'est toujours, il faut être volontaire pour les suivre. EPA nous a formés, EPA nous a appris à gérer ces projets, et ce n'est pas quelque chose d'évident. Il faut passer par cette phase de formation de façon modeste, au départ, essayer de monter en compétence nous-mêmes dans la gestion de projet, hein, tout simplement, pour être capable de laisser les élèves mettre de leur destin là, sur ce projet-là, ça se prépare. Ça se prépare pour nous aussi.
Il y a un aspect aussi qui me semble intéressant d'un point de vue extérieur, quand on observe tout ce qui se fait au sein de ces mini-entreprises. Vous êtes à l'intérieur pour les construire. Cela dit, EPA, vous êtes aussi un petit peu à l'extérieur. Vous êtes un peu un observateur de l'évolution des projets, parce que finalement, c'est un indicateur des préoccupations des jeunes au gré des années en fonction, on l'a compris, déjà rien que au collège des Collines, il y a donc un projet plus axé commercial, un autre qui est plus humanitaire. Et puis c'est vrai que News FM ayant été présent aux deux derniers salons régionaux, enfin le salon qui avait lieu sur Grenoble, voilà, de la mini-entreprise, on a pu voir la diversité des projets, et c'est un éventail mais très large, qui va des projets de solidarité un peu idéalistes, en passant par des projets qui sont des inventions pratiques ou ludiques, jusqu'à certains projets mais fermement ancrés dans une réalité économique, commerciale, c'est très pro. Donc on a quand même une vue de ce que les jeunes peuvent produire, avec peut-être une évolution suivant les années, où on va dire, bon, il faut quand même que ça évolue sur une période assez longue. Donc c'est intéressant, ça aussi, de voir un peu ce qui, quand on leur donne carte blanche, quand on dit, allez-y, montez une mini-entreprise, voir ce que ça va produire.
Mais c'est vrai que moi je suis à chaque fois ébahi par à la fois les différences de profils, les différences de projets de mini-entreprise qui sont extrêmement différents, enfin divers et variés, avec un ancrage territorial très intéressant et une volonté de porter des projets dits d'économie sociale et solidaire, dits de diversité, travaillant sur l'écologie aussi. C'est des projets qui sont assez incroyables. Et puis, il y a une notion sur laquelle je voulais revenir, c'est la question de l'égalité aussi homme-femme. C'est qu'on s'aperçoit, et notamment au collège, et je pense qu'Aurélien pourra en parler, on s'aperçoit que le rôle, les jeunes filles, les jeunes femmes, prennent un rôle très très important dans les mini-entreprises. Et c'est vrai que ça permet aussi à des jeunes de pouvoir faire en sorte que ces jeunes femmes prennent leur place et que les jeunes garçons aussi s'aperçoivent que finalement cette égalité homme-femme doit exister et est très importante.
Moi, j'ai eu l'impression sur les deux derniers salons, donc on a couvert avec un plateau radio sur toute la journée, que c'est souvent une jeune fille qui est patronne de la mini-entreprise. Il y a plus de jeunes filles que de jeunes garçons.
Oui, tout à fait. Oui, mais c'est vrai. Alors nous, on assure la parité au départ au niveau de la sélection des mini-entrepreneurs. Pour les parcours personnalisés, c'est particulier parce que là, c'est des élèves qui sont repérés dès la classe de 5e et pour qui on insiste pour qu'ils rentrent dans ce dispositif. Pour les autres, où c'est au volontariat des élèves, on a beaucoup de demandes, une quarantaine par an, on n'en choisit que 20, mais on ne choisit pas, on tire au sort 10 garçons, 10 filles parmi les candidats. Donc on peut dire que la parité est respectée, et pourtant, l'expérience a montré que quasiment à tous les coups, le binôme dirigeant, ce sont des jeunes femmes. Je dis des jeunes femmes hein, parce que ça commence jeune fille, puis vraiment, elles ont pris leur envol, là, je vois, cette année encore. La seule année où ça a été un garçon qui a été le PDG, pour nous, ça ne s'est pas très bien terminé. Il a eu démissionné en cours d'année. Donc voilà un projet qui était mal parti. L'équipe a rebondi et ils ont réussi à pondre un excellent projet. C'était l'année où toutes nos cartes bleues commençaient à avoir ce petit logo, là, RFID, là, le petit logo sans contact. Mmh. Et donc, ils ont rebondi sur l'actualité. Grâce à l'actualité, ils ont mis en place une petite pochette dans laquelle on glisse sa carte bleue pour la protéger du piratage. Voilà. Donc, ils avaient pu, comme ça, rebondir. Mais c'est vrai que toutes les autres fois, ça a été des jeunes femmes qui ont dirigé les mini-entreprises chez nous.
Et c'est d'autant plus intéressant, cet aspect-là, quand on sait que, dans le milieu adulte professionnel, c'est quand même beaucoup plus des hommes qui sont à la tête d'entreprises que des femmes. Donc, ça serait intéressant de voir un peu ce basculement, à partir de quel moment ça s'inverse les choses. Bon, ce n'est pas le débat d'aujourd'hui, mais c'était intéressant de mettre un doigt là-dessus. On en reparlera peut-être un jour,
hein,
sur cet aspect-là. Oui. J'aimerais maintenant qu'on aborde un peu le côté valorisation de ces mini-entreprises. J'ai évoqué les salons donc académiques. Hein. Il y en a 3 jusqu'à présent, chaque année, qui avaient lieu pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont l'un sur Grenoble. Donc forcément, cette année, ça a capoté. Pas possibilité d'avoir ce salon, parce que voilà, il ne pouvait pas y avoir des gens qui se réunissent sur un même endroit. Donc du coup, vous avez, chez EPA, créé une nouvelle façon de mettre en valeur les mini-entreprises. Jonathan.
Pour revenir sur ce salon, donc c'est vrai qu'à la fin de l'année, on essaye de travailler justement sur la valorisation des jeunes et de leurs projets. Donc on rassemble entre 1000 et 1200 personnes sur chaque salon pour faire en sorte que les jeunes puissent présenter leurs projets sous forme de stand et sous forme de présentation orale. Donc c'est vrai que c'est des journées qui sont extrêmement festives. Les jeunes attendent finalement que ça en fin d'année. Des animations qui sont organisées tout au long de la journée. Donc c'est vrai que ça a été difficile pour nous d'annuler ces salons. Surtout qu'il y a des salons académiques, puis des salons, un salon national, puis des salons européens. Donc il y a une vraie dynamique aussi collective, nationale et européenne, qui est mise en place sur ces événements de fin d'année. Et donc période extrêmement particulière due au Covid a dû nous faire repenser les choses. Et donc, on est en train d'organiser avec l'ensemble des parties prenantes d'Entreprendre pour Apprendre, que ce soit les encadrants pédagogiques, les mentors, les salariés et puis les partenaires d'Entreprendre pour Apprendre. On est en train d'organiser le festival Rebond, qui est le festival numérique des mini-entreprises, qui sera un festival à la fois régional, mais avec aussi une ampleur nationale, où toutes les associations d'Entreprendre pour Apprendre vont participer et vont créer à leur manière ce festival Rebond, avec pour objectif de valoriser un maximum les projets des jeunes, d'une certaine manière. Et puis, c'est aussi ça l'entrepreneuriat, c'est avoir la capacité de rebondir quand on a des difficultés. Et donc c'est pour ça qu'on a organisé ce festival qui aura lieu donc du 9 au 19 juin, donc sur un site internet qui sera dédié, où n'importe quelle personne qui souhaite découvrir Entreprendre pour Apprendre, qui souhaite découvrir le projet des jeunes, toute personne souhaitant participer à ça, pourra aller sur ce site internet et voter pour le projet de son choix. dans un autre temps, on sollicite aussi des partenaires, parce que les jeunes vont nous faire un rapport d'activité, vont faire aussi cette vidéo qui sera sur le site internet. Et donc, différents prix seront remis. Donc, entre le 22 et le 26 juin, on fera un événement live pour remettre les prix aux lauréats de cette année. Donc, on essaye de faire en sorte que finalement, ce salon, ces salons académiques qui vivent très bien chaque année et qui sont extrêmement importants, puissent avoir une envergure numérique. Et c'est utiliser aussi l'outil numérique pour faire en sorte que la communauté d'Entreprendre pour Apprendre, toutes ses parties prenantes, puissent participer et surtout que les jeunes puissent être valorisés sur leur projet.
Du côté donc du collège des Collines, les deux équipes mettent la touche finale, la
vidéo. Exactement, là on est sur les vidéos, mais c'est quand même faire le deuil du salon, ça n'a pas été évident hein, pour nos jeunes. Ça a été compliqué pour eux parce qu'ils attendaient vraiment ça avec impatience. Le salon et la vente. Il y a un autre événement très important pour eux, c'est de se confronter à leur clientèle. Et on tenait beaucoup chaque année à ce qu'il y ait une vente, par exemple dans le supermarché d'à côté ou au marché local, qu'il y ait une vente de leurs produits. Et ce passage leur permettait de voir, de tester leurs produits et d'avoir un retour, un feedback sur ce qu'ils avaient fait, qui était vraiment précieux pour eux. Et ils sortaient tellement fiers de ces expériences, c'était tellement incroyable. La vente comme le salon cette année, ce sera une perte irremplaçable, mais j'ai l'impression qu'on va gagner en visibilité ce qu'on a perdu en convivialité. C'est-à-dire que finalement, ils vont pouvoir faire partager leur travail avec leur famille, par exemple. Et c'est vrai qu'au salon, on avait peu de visiteurs extérieurs hein, qui se rendaient sur les salons. Là, au moins, on aura une audience nationale, voire internationale. Donc pourquoi pas, on va essayer de faire comme ça. De toute façon, on a bien été obligé de réinventer pas mal de choses ces derniers temps.
Les salons académiques, c'était aussi donc un moment pour décerner des prix, désigner des lauréats qui ensuite allaient représenter leur mini-entreprise c'était après sur Paris que ça se passait
C'était sur Paris, en effet. Alors l'année dernière, non, c'était pour les 100 ans d'Entreprendre pour Apprendre, ça avait été fait sur Lille.
Non, d'accord. Voilà, mais... Et du coup, là, cette année, il n'y a pas ce concours.
Non, il n'y aura pas de salon national, hormis le fait que l'ensemble des associations se sont regroupées pour créer ce festival Rebond. Donc, il n'y aura pas de remise de prix en tant que tel. Au niveau national, il y en aura au niveau Auvergne-Rhône-Alpes. Hein. Il y aura un prix coup de cœur qui sera remis justement par le grand public, qui ira voter sur ce site internet et sur les vidéos que les jeunes sont en train d'effectuer. Donc, c'est 50 projets quand même. Donc les jeunes travaillent en télétravail, hein, 50 projets et 50 vidéos qui sont en train d'être réalisées par l'ensemble des jeunes de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc c'est un peu plus de 800 jeunes qui participent à ce festival-là. Mais donc il y aura une ampleur nationale dans le sens où une communication nationale sera faite sur l'ensemble des festivals qui seront proposés par les associations régionales.
Alors Aurélien, j'étais en train de me demander si je vous vois ou je tutoie, parce qu'on a basculé du vouvoiement au tutoiement. Donc
bien.
Aurélien, tu évoquais ce travail de vidéo. On peut dire que finalement, toutes ces contraintes, ces déceptions, donc par la disparition, l'annulation du salon, toutes ces frustrations qui ont eu lieu cette année à cause de la crise du coronavirus, ça a aussi ouvert des opportunités. Et là, donc, le fait de travailler sur une vidéo, ce qui n'a jamais été le cas avant, c'est une autre façon d'aborder ce travail d'entreprise, c'est créer un petit film d'entreprise, alors, en quelque sorte, pour mettre en valeur l'entreprise.
Chaque année, une vidéo promotionnelle était réalisée hein, dans le cadre...
Ah, c'était déjà fait avant ?
Mais c'était
d'accord.
Volontariat.
Facultatif.
Hein.
Ouais.
Voilà, c'était facultatif.
Ouais, parce qu'on n'en avait jamais parlé
il y en avait, qui étaient sacrément bonnes, parfois vraiment des super publicités. Là, cette année, c'est un petit peu particulier, effectivement, mais il ne faut pas oublier que nos élèves, ils ont gagné de toute façon en compétences numériques, en travail à distance, comme leurs parents, ils s'y sont mis aussi. Et finalement, ce qui aurait pu poser problème il y a quelques mois, aujourd'hui, c'est devenu une banalité. Les outils, ils les maîtrisent mieux que nous, hein, faut être honnête. Les techniques aussi. Et là, pour le coup, les rôles sont inversés, parce que c'est l'élève qui va montrer à l'enseignant comment servir de Discord, comment créer en ligne une vidéo à plusieurs, etc. Ils ont des choses à nous montrer là-dessus. Et je suis bien incapable de faire le mixage vidéo qui se prépare du côté des élèves. Bien incapable.
Pour terminer, et avant de vous donner le mot de la fin, puisque vous avez peut-être certains points que vous aimeriez aborder ou revenir dessus, cette valorisation, cette mise en valeur de toutes ces, tous ces projets. Alors, il y a donc le Festival Rebond au mois de juin. Est-ce qu'il y a d'autres canaux de diffusion, que ce soit pour ces vidéos ou de manière générale, même les années précédentes, les mini-entreprises, ça ne mourrait pas à la fin du mois de juin. Donc il y a certaines mini-entreprises qui se poursuivaient,
tout à fait,
du moment qu'il y avait encore une équipe pour la porter, d'autres qui s'interrompaient puisque c'était un projet sur une année. Donc ça veut dire qu'il y a, ça continue à être mis en valeur au-delà.
Alors, dans le programme, dans le parcours pédagogique de la mini-entreprise, elle, c'est un parcours pédagogique d'une année. Donc, ils sont censés s'arrêter à la fin de l'année. Mais c'est vrai qu'ils ont découvert le travail en équipe. Très souvent, ça a créé des liens forts entre tous ces jeunes-là. Et donc, bon, Aurélien pourra en parler mieux que moi parce qu'il a suivi des mini-entreprises qui ont perduré et qui ont continué. C'est vrai que des projets, enfin, ils portent ce projet et c'est leur projet, c'est leur bébé.
EPA ne poursuit pas l'accompagnement au-delà de l'année scolaire.
On va mettre en lien, nous notre travail finalement s'arrête entre guillemets à la fin de l'année pour repartir sur d'autres projets, mais on est en lien avec des partenaires territoriaux qui sont là pour accompagner de réelles créations d'entreprises ou d'associations du territoire. Et donc on va mettre en lien finalement ces jeunes pousses d'entrepreneurs, on va les mettre en lien avec des structures qui sont là pour réellement accompagner des entreprises qui se créent.
Et il y a aussi le rôle du parrain, parce que nous, bien sûr, on est bloqué, on reste au collège, mais le parrain, lui, continue. Et les expériences qui ont pu être continuées, après le poursuivies après le collège, c'est parce que le parrain aussi a continué à suivre son équipe, et ils ont pu, comme ça, avoir l'aide d'un adulte pour, par exemple, se transformer en association. C'est pas évident, hein, comme ça, sans aide. Mais ça a été possible, rendu possible grâce aux parrains.
Et alors, ça veut dire que des mini-entreprises des années précédentes au Collège des Collines existent encore ?
Oui, tout à fait, oui, bien sûr. D'ailleurs, je peux vous dire que cette année, il n'est pas question que nos élèves arrêtent. Ils se sont déjà donné rendez-vous l'année prochaine. Très frustrés de ne pas avoir pu terminer en beauté cette année, ils vont poursuivre au lycée leur expérience. Hein, c'est la mini, ils ont, par exemple, ils tiennent absolument à faire cette vente. Et ils la feront sans nous, malheureusement, mais j'ai déjà prévenu les collègues au lycée, ils sont au courant, ils les attendent, et puis de toute façon, alors il y a le problème des lycées, parce que les élèves vont être éclatés entre plusieurs établissements, donc généralement ils se débrouillent très bien, ils se retrouvent avec, il y en a toujours un qui a une maison un peu plus grande que les autres, ils arrivent à se retrouver, et à produire souvent au lycée le matériel de production est même plus performant que ce qu'on a nous au collège, donc ils se débrouillent très bien sans nous. Et ce sera, pour moi, à mon avis, le mot de la fin, c'est justement être capable de s'effacer à tel point que ce n'est pas notre bébé, hein, comme l'a dit Jonathan, c'est leur bébé, et ils le portent sans nous. C'est-à-dire qu'après, on va les suivre sur Internet, mais ils reviennent nous voir, évidemment, au collège, ils sont très fiers de nous dire qu'ils continuent et nous montrer leur production, mais c'est sans nous, et ça, c'est très bien.
Donc les mini-entreprises peuvent aussi vivre en dehors du collège, une fois que leur... ceux qui les font vivre ne font plus partie de l'établissement.
Tu parlais tout à l'heure des canaux de communication, justement, peut-être parler de ce festival, du festival Rebond. Donc, le site internet est en construction. Donc, le festival aura lieu du 9 au 19 juin. Vous pouvez retrouver le lien du site internet qui arrivera bientôt sur le site internet d'Entreprendre pour apprendre Auvergne-Rhône-Alpes ou sur les réseaux sociaux comme LinkedIn, Facebook, Instagram. D'entreprendre pour apprendre ou EPA aura, si vous souhaitez aller faire un petit tour sur notre site internet et sur ce festival Rebond pour valoriser les projets des jeunes.
Eh bien, un grand merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Comme je le disais, je ne sais pas si j'ai dit en direct ou juste avant de prendre l'antenne, vous êtes nos premiers invités en chair et en os dans le studio depuis plusieurs semaines. Donc merci d'être venus jusqu'à nous. Je le rappelle que vous avez pu écouter, si vous êtes arrivé en cours de route, La Voix de l'Emploi. On parlait aujourd'hui des mini-entreprises EPA, Entreprendre pour apprendre. Nous étions en compagnie de Jonathan Simonard, coordinateur territorial Isère-Drôme-Ardèche pour l'association EPA, et Aurélien Cador, enseignant au Collège des Collines à Chirens et encadrant pédagogique de deux mini-entreprises EPA sur le collège. Merci encore.
Merci.
Bonne continuation.
Un grand merci à toi, Christophe, et à toute l'équipe de News FM.
Merci de votre accueil.
Bonne continuation, donc. Et puis, eh bien, à vous, auditeurs, auditrices, je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission de La Voix de l'Emploi sur News FM. C'était La Voix de l'Emploi sur News FM, avec le soutien de Grenoble-Alpes-Métropole et du CEGET, le Commissariat Général à l'Égalité des Territoires.